Bonjour, c'est Mickaël du blog Mon couple heureux. Aujourd'hui, je reçois Yvon Dallaire, qui est un spécialiste des relations hommes-femmes. Il est psychologue, sexologue, auteur et conférencier. Alors bonjour Yvon Dallaire, pourriez-vous vous présenter aux auditeurs de Mon couple heureux?
Oui, bonjour Monsieur Petit. Je suis psychologue de formation. J'ai été formé à l'Université Laval et depuis dans les années 70 et depuis 75-78, je me suis particulièrement intéressé aux relations hommes-femmes. J'ai été professeur de psychologie dans une première carrière au Collège de Sainte-Foy, qui est un niveau préuniversitaire entre 71 et 84. Ensuite, je me suis consacré à ma pratique privée dans mon bureau privé en tant que travailleur autonome. Et j'ai commencé à écrire des livres depuis 1996, mon premier livre. Je suis rendu à... Je vais bientôt avoir 20 livres d'écrits. Là, je travaille sur les deux prochains.
J'avais répertorié 13 livres, mais apparemment, il m'en manque encore 7 alors.
Oui.
Le dernier que j'avais, c'était « Guérir d'un chagrin d'amour » de 2008.
Ah, depuis ce temps-là, j'ai écrit « Les couleurs de l'amour », qui est un recueil de chroniques que j'écris pour le Journal de Montréal et de Québec, ici au Canada. Et j'ai aussi « Qui sont ces hommes heureux » là, qui fait partie de ma trilogie sur le bonheur conjugal.
Pourquoi autant de couples vont mal? Pourquoi il y a autant de divorces?
Parce que tout simplement, les gens ont trop d'illusions sur le couple. Entre autres, l'illusion de croire que si je trouve mon âme sœur, appellation moderne pour prince charmant et princesse charmante, que je vais être heureux pour le reste de ma vie. Or, le couple n'est pas fait pour rendre heureux. C'est ça l'illusion. Le couple est un creuset pour générer des crises, de préférence des crises de croissance, mais malheureusement, la majorité des couples se retrouvent dans des crises de décroissance. Et on constate, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, que environ 50% des couples divorcent, dont la moitié avant la cinquième année, et que environ 30% des couples se résignent et s'endurent pendant des décennies, pour ne laisser qu'un maigre 20% de couples qui réussissent, après la lune de miel, à dépasser la lutte pour le pouvoir inévitable pour arriver au partage du pouvoir.
Donc justement, ma prochaine question, c'était quels sont les problèmes les plus fréquents rencontrés en consultation? Donc je suppose, est-ce qu'il y a cette lutte de pouvoir qui est un problème récurrent?
Il y a 6 sources de conflits, pour la plupart insolubles dans les couples. Le premier, c'est l'argent. Le deuxième, c'est l'éducation des enfants. Le troisième, c'est les relations avec les belles familles. Le quatrième, c'est la répartition des tâches ménagères. Le cinquième, c'est la séparation à faire entre la vie privée et la vie conjugale et familiale. Et finalement, le sixième, faut pas l'oublier celui-là, la sexualité.
Ouais.
Et sur ces 6 sources de conflits, les deux partenaires, les deux protagonistes jouent au jeu « j'ai raison, tu as tort ». J'ai raison de vouloir dépenser l'argent de cette façon-là ou d'élever les enfants de cette façon-là, alors que toi, tu as tort de vouloir les élever autrement que moi, je veux les élever. Et c'est ça qui fait la lutte pour le pouvoir, qui n'est pas, qui n'a pas comme objectif d'écraser ou de dominer l'autre, mais tout simplement de faire passer son point de vue.
Ouais. Et justement, comment éviter ces pièges-là, comment éviter de rentrer dans des conflits insolubles?
Ben, c'est qu'il faut arriver à négocier des ententes à double gagnant. Par exemple, dans les couples concernant l'argent, il y en a toujours un des deux qui est plus insécure financièrement, donc qui voudrait mettre davantage d'argent de côté pour assurer ses vieux jours, son avenir, alors que l'autre voudrait davantage profiter de son argent maintenant, disant que qui dit que tu vas être encore vivant à la retraite, alors aussi bien profiter de notre argent maintenant. C'est irréconciliable parce que la solution, c'est que les deux partagent la même attitude par rapport à l'argent, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même attitude par rapport à l'argent qu'on ne pourrait pas négocier un budget tenant compte de l'insécurité de l'autre et du sentiment de sécurité financière de l'un.
D'accord. Est-ce que les couples heureux ou les relations durables ont des bonnes habitudes? Et si oui, lesquelles?
Les couples heureux développent ce que j'appelle une culture conjugale faite de routine, parce qu'on ne peut pas éviter la routine dans un couple, et de rituels. Les routines, la seule chose qu'on peut faire avec la routine ou les rituels, c'est de s'organiser pour que ce soit des routines agréables. Et lorsque elles deviennent ennuyantes, ben, faut trouver de nouvelles routines. Pour pouvoir continuer de mettre un peu de piquant dans notre vie conjugale. Et c'est sûr que la meilleure des stratégies pour éviter les conflits insolubles, pour éviter d'arriver dans des impasses, c'est d'apprendre à désamorcer les conflits. Les couples heureux ne sont pas des couples sans conflits, sans confrontation. Ils ont exactement les mêmes sources de conflits insolubles. Ils ont exactement les mêmes moments critiques que les couples qui finissent par divorcer ou se résigner, sauf qu'ils vont négocier des ententes, ils vont apprendre à se disputer sans hypothéquer leur amour. Parce que très souvent, dans les couples malheureux, ben, on dit que si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais et t'accepterais, ou encore tu es de mauvaise foi parce que ça fait 10 fois que je te le dis, puis t'en tiens pas compte. On accuse l'amour et la bonne foi, alors qu'en général, ce n'est pas l'amour et la bonne foi qui manquent dans des couples. Ça fait plus de 30 ans que je fais de la thérapie conjugale, et les hommes sont de bonne foi et les femmes sont de bonne foi, sauf que ils n'ont pas tout à fait la même grille d'analyse des différentes sources de conflits dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des connaissances et développer un peu plus d'acceptation et faire des efforts pour essayer de non pas se soumettre au point de vue de l'autre, mais à comprendre le point de vue de
Oui.
l'autre et arriver à négocier des ententes à double gagnant. Puisque dans un couple, il ne peut pas y avoir un gagnant et un perdant, il ne peut y avoir que deux gagnants ou deux perdants.
Fait, j'ai lu un livre qui parlait de pour résoudre les conflits, il fallait faire des compromis. Et en fait, cette personne-là disait que le compromis, c'était pas un bon mot, parce qu'un compromis, ça voulait dire un sacrifice des deux côtés.
Exact, c'est une entente à double perdant, un
Et
compromis.
voilà, vous, c'est pas ça que vous dites, c'est justement qu'il faut qu'il y ait aucun sacrifice, mais bien que de chaque côté, chacun fasse, soit gagnant.
C'est ça. Il faut que un compromis, c'est une entente à double perdant. Et d'ailleurs, les gens le disent, hein. Il faut mettre de l'eau dans son vin pour être heureux dans son couple. Il faut faire des compromis. Alors, moi, je trouve ça péché que de mettre de l'eau dans du vin, surtout si j'ai une bonne qualité de vin. C'est comme ça que je perçois le compromis. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un prix à payer pour vivre avec quelqu'un. La personne avec qui je vais vivre ne sera jamais à la hauteur de la femme qu'il y a dans ma tête ou de l'homme qu'il y a dans ma tête. Donc, le prix à payer, c'est la différence entre ce que je voudrais et ce que j'obtiens
Ouais,
comme tel.
d'accord.
Et les membres des couples heureux, on a constaté qu'ils étaient très exigeants. Je suis prêt à m'investir à 100% dans mon couple et j'exige que toi aussi tu t'investisses à 100% dans notre couple. Je veux pas de demi-mesure, je veux pas de demi-présence, je te veux à 100%. Donc, dans les couples heureux, on investit du 200%, alors que dans les couples malheureux, ben, on est toujours en train de calculer et on dit, ben, écoute, c'est 50-50. C'est pas vrai. Je suis 100% responsable de mon bout de la relation. Elle est 100% responsable de son bout de la relation. C'est sûr que la qualité ou la couleur du couple, c'est une co-réalisation, une co-responsabilité. Mais si les deux s'investissent à 100% et acceptent de s'affirmer tout en restant ouverts à l'autre, ben c'est sûr qu'on a une formule gagnante.
D'accord. Mais par contre, s'investir à 100%, est-ce que c'est pas tombé dans le piège du couple fusionnel?
Non, 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 parce que le 100% ne devrait pas dépasser 25%.
Ah bon?
On a quatre dimensions dans notre vie. La dimension professionnelle, la dimension partenaire, couple, la dimension parentale et ma dimension vie privée, vie personnelle. Et moi, j'estime que au total de ma vie, je devrais avoir investi 25% de mon temps, de mes énergies, de mon argent dans ma profession, avec ma partenaire, avec mes enfants et aussi seul avec moi-même. Parce que je peux avoir des projets, des amis qui ne sont pas nécessairement des projets ou des amis de couple, ou des amis professionnels ou des projets professionnels, là. Donc, le couple, pour moi, ne constitue que 25% de ma vie. Mais dans ce 25%-là, il faut que je sois présent à 100%.
D'accord, très
Un
bien.
homme, par exemple, qui trouve sa partenaire et maintenant se frotte les mains, dit, bon, j'ai trouvé ma partenaire de vie à vie et là, je vais m'investir davantage dans mon travail. Pour moi, c'est un homme qui est infidèle, ça. Lorsqu'il laisse tomber ou investit moins avec sa partenaire pour s'investir davantage dans sa profession, ou la femme, c'est souvent le cas, qui va, une fois qu'elle est devenue mère, s'investir davantage dans ses enfants, dans sa maternité, qu'avec son partenaire. Alors, il faut pas, pour moi, j'appelle ça de l'infidélité affective.
D'accord. Alors, je voulais vous poser des questions diverses sur la vie de couple que l'on m'a posées et dont je voudrais connaître votre point de vue. La première, c'était que faire lorsque l'autre refuse la communication?
On en profite pour faire autre chose.
Donc, vous dites qu'il faut le laisser bouder dans son coin et puis
Oui.
revenir. Ah oui, d'accord.
Parce que la bouderie, c'est une façon d'essayer d'avoir du pouvoir sur l'autre. Alors, il faut pas porter, faut pas que l'autre se rende compte que bouder soit rentable. Fait que si
Ah,
la personne
d'accord.
qui boude se retrouve seule, en général, elle va bouder de moins en moins longtemps et de moins en moins souvent, surtout si elle voit que son partenaire, pendant que lui boude ou elle boude, que son partenaire s'amuse.
Ah, d'accord, très bien. Est-ce que nous pouvons changer l'autre?
Non. Le seul pouvoir que j'ai, c'est sur moi-même. Je ne peux pas changer l'autre. Le seul pouvoir que j'ai sur l'autre, c'est le pouvoir que l'autre veut bien m'accorder. Or, on se rend compte que plus j'essaie de changer l'autre, plus l'autre résiste à mes désirs de changement. C'est tout à
D'accord.
fait humain.
Et dans le même ordre d'idée, nous attendons tous les deux des choses différentes. Comment faire co coïncider ces deux choses, ces deux projets différents en fait de vie?
Ben, c'est sûr qu'au niveau du partenariat, au niveau du couple et de la famille, il faut partager des projets communs. Mais c'est sûr que moi, je peux avoir des activités, des projets personnels qui ne sont pas nécessairement partagés par ma compagne. Et le couple est quand même là, même si je ne suis pas d'accord avec ton projet, pour t'aider à réaliser ton projet. Puisque faut pas oublier que le verbe aimer provient du verbe aider. Donc, quand on s'aime vraiment, on va s'entraider tous les deux à s'épanouir à l'intérieur de son couple et à l'extérieur de son couple, au niveau professionnel ou au niveau personnel.
D'accord. Et en plus, c'est très important, comme vous le disiez justement tout à l'heure, d'avoir des projets personnels.
Oui, c'est important d'avoir 25% de ma vie consacrée
D'accord.
à moi-même, comme tel. C'est sûr que pour être heureux en couple, j'ajoute un élément, pour être heureux en couple, il faut avoir un maximum, pas un minimum, un maximum de compatibilité. La psychologie populaire dit que les contraires s'attirent, c'est vrai, ça crée des coups de foudre, mais en général, les couples heureux ne sont pas basés sur un coup de foudre, ils sont basés sur l'autre dicton populaire qui dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Alors, la psychologie conjugale scientifique confirme que plus on est semblable, moins nos sources de conflits vont se polariser, moins on va être dans des extrémités. Donc, on va être plus facilement d'accord sur l'argent, l'éducation des enfants, la sexualité, etc.
Justement, c'est une question que je me posais, c'était de savoir comment être sûr qu'on est avec la bonne personne. Et comment savoir si on doit continuer à se battre pour son couple, ou alors est-ce qu'il faut abandonner?
Ben, on ne sait jamais, on n'a pas de garantie. C'est sûr que si on prend le temps de se fréquenter, d'apprendre à se connaître avant de s'engager, ce serait idéal. Sauf que la majorité des gens ont comme on le dit en Europe, tombé amoureux. Et au Québec, tomber en amour, c'est comme s'il y a une perte de contrôle, là. C'est l'émotion qui prend le dessus sur la raison. Fait que c'est ça qu'on appelle la période de passion, de lune de miel, pendant laquelle on n'est pas vraiment en amour avec l'autre, on est en amour avec les sensations, les émotions, les fantasmes très agréables que l'on vit. Ce n'est qu'au fur et à mesure que l'on vit avec l'autre qu'on va finalement découvrir qui est l'autre. Et là, c'est là où l'amour va prendre place ou non. Et généralement, ça, c'est une période entre 2 et 3 ans. La lune de miel va durer généralement 1, 2, 3 ans maximum, et c'est pour ça que la majorité, 50% des couples qui divorcent, la moitié divorcent avant la 5e année, parce que c'est là où on a découvert qui était vraiment l'autre. Vous
Ouais,
savez, il y
d'accord.
a un proverbe qui dit que l'amour est aveugle. En fait, c'est pas l'amour qui est aveugle, c'est la passion qui est aveugle, mais la vie à deux rend la vue, et généralement assez rapidement.
Ouais. Est-ce qu'il y a des est-ce que justement il y a des méthodes, des formules quand tout va mal dans le couple, est-ce qu'il y a une bonne réaction à avoir justement pour par rapport à ces événements-là?
C'est sûr que je le répète, le couple est fait pour, c'est un creuset pour générer des crises et le critère pronostique de l'évolution des couples, c'est comment ils vont gérer leur crise. Non pas pour résoudre les problèmes, mais pour négocier des ententes à double gagnant où les deux ont vraiment l'impression à ce moment-là de s'élever en amour parce qu'ils grandissent, ils évoluent positivement et parallèlement. Sinon,
D'accord.
ben, c'est sûr que si on arrive dans des confrontations, c'est évident que si le couple devient un terrain de bataille perpétuelle, le lit devient une arène de lutte, c'est évident que, on va finir par ou se résigner, et ben, c'est malheureux, mais c'est souvent comme ça, ou se séparer et recommencer ailleurs la même chose parce qu'on n'aura pas perdu nos illusions concernant l'amour, le couple, l'illusion de l'âme sœur, etc., etc. On va
C'est vraiment un
recommencer ailleurs
piège
la
en
même
fait.
chose.
C'est vraiment un piège cette histoire de d'âme. C'est un mythe quoi de penser que l'autre qu'on va qu'il existe plutôt une personne parfaite
C'est
qui nous
ça.
attend quelque part et on reporte cette image sur l'autre et finalement au bout d'un moment on se rend compte que c'est pas vrai.
S'il faut, l'image que j'utilise pour illustrer ce qu'est un couple, c'est un damier, et j'ai ça dans mon bureau là, comme outil thérapeutique, c'est un damier sur lequel d'un côté j'ai mis les pièces d'un jeu de dames et de l'autre côté des pièces d'un jeu d'échecs.
Ah
Alors,
oui.
le damier ou l'échiquier, c'est le couple, c'est le terrain, c'est le territoire commun. Et moi, je dis qu'en général, les hommes, on joue aux dames parce qu'on est plus linéaire, alors que les femmes sont représentées par le jeu d'échecs parce qu'elles sont davantage changeantes. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre le couple. Dans la lune de miel, les deux trouvent quelqu'un qui veut jouer, hein? Je trouve quelqu'un qui veut jouer avec moi et je pars du principe qu'il va jouer selon mes règles à moi.
Ah,
Alors,
d'accord.
pendant la lune de miel, on se présente sur notre plus beau jour, ça va très, très bien. Mais à partir du moment où le couple est bien installé, bien acquis, conquis, à ce moment-là, ben, un des deux avance une pièce et l'autre dit, ben non, c'est pas comme ça qu'on doit jouer, c'est autrement. Alors, c'est
D'accord.
correct que chacun puisse vouloir dire à son couple qu'est-ce que j'attends du couple, comment moi je veux jouer dans ce couple-là, mais pour être heureux dans un couple, il faut accepter d'apprendre les règlements du jeu de l'autre. Et les couples heureux sont ceux qui inventent un troisième jeu à partir de certains règlements du jeu de dames et du règlement du jeu d'échecs pour
D'accord.
former une entente, former une culture conjugale qui peut être différente d'un couple heureux à l'autre.
Vous avez parlé de routine, vous disiez que ça faisait partie des choses importantes pour des habitudes, des bonnes habitudes chez des couples heureux. Mais pourtant, il y a des personnes qui se plaignent de la routine dans le couple.
On
Alors,
ne
c'est assez bizarre.
peut pas éviter la routine. Tous les matins, je dois me lever, me laver, déjeuner, aller courir, m'occuper des enfants s'il y en a, aller travailler, revenir, faire les devoirs aux enfants, souper, se coucher, se laver avant de se coucher, etc., etc. On peut pas éviter la routine. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de s'organiser pour que, à travers ces routines-là, on puisse avoir du plaisir à le faire et à changer les routines lorsqu'on peut le faire et pour ajouter du nouveau dans notre vie, parce que c'est sûr que les routines à la longue peuvent devenir ennuyantes et certains disent que la routine, c'est la rouille du couple. C'est vrai, en partie, mais si je développe, et c'est ce qu'on constate chez les couples heureux, on ne peut pas ne pas développer des routines ou ce que moi j'appelle des rituels conjugaux. Donc,
Oui.
s'organiser pour que nos rituels soient le plus agréable possible. On peut chanter en lavant la vaisselle.
D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que tous les couples peuvent être heureux?
Tous les couples peuvent être heureux. Tous les couples valent aussi la peine d'être sauvés, parce que j'en ai plusieurs qui sont venus me voir, des milliers de couples qui sont venus me voir en 30 ans, là. Et tous les couples, sauf quelques rares exceptions, parce qu'il y a quand même des relations toxiques qu'il faut quitter, là. Mais tous les couples peuvent et doivent au moins essayer de se donner une dernière chance, parce que tous les couples peuvent être sauvés. Mais pas à n'importe quel prix, évidemment.
D'accord. C'est le prix d'un effort, d'un travail sur soi et d'un travail sur son couple.
Exactement. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup de bonne foi, mais faut, à cet amour et cette bonne foi-là, il faut ajouter des connaissances et des efforts à faire pour cesser de faire ce qui ne fonctionne pas. Et on le sait aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les couples, et mettre en pratique les stratégies qui fonctionnent. Puis aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on les a étudiées, les couples heureux, et on les connaît, ces stratégies-là, qui fait que ça fonctionne.
Quand faut-il demander de l'aide et consulter un spécialiste?
Quand on arrive, je pense, à se coucher dans notre lit, qui devrait être un terrain de jeu seulement ou un endroit de détente, quand notre lit devient une arène de lutte et qu'on se retrouve couché dos à dos et qu'on fait semblant de dormir.
D'accord.
Là, il commence à y avoir pas mal de fossés ou un mur qui s'élève entre nous deux. L'idéal, ce serait évidemment d'avoir des véritable cours de préparation au mariage donné par des intervenants, psychologues, thérapeutes conjugaux, sociologues, intervenants sociaux, qui connaissent les caractéristiques des couples heureux à long terme et qui n'entretiennent plus d'illusions sur le couple, comme deux autres illusions, là, que malheureusement, c'est même la psychologie conjugale qui a véhiculé ces deux croyances-là. C'est qu'avec la communication, on peut finir par se comprendre. Alors, la communication a quand même certaines limites. Et que si on se parle et qu'on est ouvert dans une attitude d'acceptation inconditionnelle et chaleureuse de son partenaire, qu'on va réussir à régler tous nos problèmes. Alors, la majorité des problèmes de couple, Gottman parle de 69%, sont insolubles. Donc, plus on va essayer de parler et de communiquer sur des problèmes insolubles pour trouver un consensus, plus on va s'enfoncer. Alors, une des caractéristiques des couples heureux, c'est qu'ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Je comprends, mon amour, que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je t'aime quand même.
C'est vrai que c'est pas forcément très simple. J'ai lu ce livre là, c'est Les couples heureux ont leur secret, c'est ça?
Exact,
Ouais.
c'est une véritable Bible et ça a permis dans le courant psychologique de vraiment arrêter de croire que la communication et la résolution de problèmes étaient la meilleure des stratégies pour faire d'un couple un couple heureux à long terme. Or, on sait très bien aujourd'hui que les thérapies conjugales basées sur la communication et la résolution de conflits, sur le coup, ça peut amener mettre un peu de baume, mais à long terme, ça n'est pas efficace. Ce qui est efficace, c'est que moi, je dois, en tant qu'homme, je dois apprendre la psychologie féminine, je dois apprendre la psychologie de ma partenaire, parce que oui, toutes les femmes sont peut-être faites dans le même moule, mais toutes les femmes aussi sont uniques au monde. Donc, si moi, je suis le spécialiste du jeu de dames, si je veux être heureux dans mon couple, avec cette femme-là ou n'importe quelle autre femme, il faut que j'apprenne les règlements du jeu d'échecs et vice-versa. Alors, autrement dit, il faut devenir bilingue dans un couple
Oui,
pour pouvoir
d'accord.
être heureux à long terme.
D'accord. Donc justement, je voulais vous demander quel conseil donneriez-vous à un couple qui commence sa vie à deux? Ce serait celui-là, d'apprendre le langage de l'autre, finalement.
Oui. Les couples heureux, finalement, ils ont décidé d'être heureux plutôt que de chercher à avoir raison. Parce que ça, c'est le jeu préféré des couples malheureux qui finissent par divorcer ou s'endurer. J'ai raison, tu as tort. Il faut sortir de là. Deuxième conseil que je donnerais, c'est que dans un couple, je vais vous le dire un petit peu de façon triviale, là, dans un couple, on a toujours le choix entre brasser des fleurs ou brasser de la chenoute, hein, de la merde.
D'accord.
Le bonheur, c'est une question d'odeur.
Ouais.
Autrement dit, on a constaté que les couples heureux, les membres des couples heureux se disaient de 5 à 10 fois plus de compliments des fleurs que des reproches de la merde.
D'accord. Alors pour finir cette interview, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter?
Écoutez, on pourrait en parler pendant des heures et des heures de qu'est-ce qui fait d'un couple heureux à long terme. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit, moi, une trilogie sur le bonheur conjugal. Trois livres, dont le premier, Qui sont ces couples heureux, dont d'ailleurs le magazine Psychologie a considéré comme étant l'un des 50 livres de psychologie qui changent une vie. J'en étais très fier lorsque j'ai appris que le magazine Psychologie trouvait mon Qui sont ces couples heureux à cette hauteur-là. Et j'ai aussi écrit une suite, parce que dans un couple on est trois, Qui sont ces femmes heureuses? Dans lequel j'explique aux femmes qu'est-ce qu'elles doivent savoir sur les hommes, qu'est-ce qu'elles doivent faire et surtout qu'est-ce qu'elles doivent arrêter de faire. Et je ferai la même chose avec les hommes, qui sont ces hommes heureux, dans lesquels j'explique aux hommes ce qu'ils doivent savoir sur les femmes, ce qu'ils doivent cesser de faire et apprendre à faire s'ils veulent être heureux avec leur femme actuelle ou la prochaine.
Très bien, ben, merci beaucoup Yvon Dallaire d'avoir répondu à toutes ces questions pour Mon Couple Heureux. Vous pouvez retrouver Yvon Dallaire sur son site yvondallaire.com.
Merci beaucoup, Monsieur Petit, ça m'a fait plaisir.
Voilà, c'est fini. Si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de laisser une note sur iTunes, ça me fera très plaisir. Et à bientôt sur Mon Couple Heureux.